Radicias, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain ils arrêtaient de nous polluer en nous cassant les oreilles et en nous envoyant de l'air pollué, enfin de la pollution carrément, pour respirer je sais pas quoi, mais du kérosène par exemple. Eh bien, ce serait sympa parce qu'il y en a marre de faire de la pub juste pour augmenter les trafics et puis on s'en fout des riverains. Est-ce qu'on se souvient de l'histoire des Qatars ? Peut-être pas, alors nous allons en parler aussi ce soir. Nous remercions Alan Delahaye qui est là ce soir pour la réalisation technique et sans réalisation technique, pas d'émission. Au micro,
Landy Sella
et Christian Moreto, mais pas que, puisque dans le studio, je reçois à nouveau avec plaisir Chantal Baird-Demander, qui est la présidente du collectif contre les nuisances aéroportuaires de Boué.
De l'agglomération toulousaine.
Voilà, pour être plus précis. Et puis nous avons aussi dans le studio Sandrine Massé, qui était déjà venue faire un tour, mais sans prendre la parole, donc tu peux prendre le micro noir, là, c'est juste, tu vois, à peu près à ce niveau. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Bienvenue bonsoir. Chez nous. Et Loïc Albicetti, qui donc était venu pour parler des druides. Mais là, il va nous parler aussi de l'histoire des Qatars.
Oui, qui sont liés l'une à l'autre, malgré ce qu'on peut en penser.
D'accord. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Alors, une première question à Chantal Baird-Demander. Chantal, je m'interroge quand je lis l'article de nos confrères de la Dépêche du Midi lorsqu'ils interviewent Mike Poon, le président de Casil l'Europe, actionnaire à 49,90% de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il se glorifie de l'augmentation du trafic sans jamais parler des nuisances que subissent et subiront encore plus les dizaines de milliers de personnes qui sont survolées par le trafic aérien. Si je me fie à mon bon sens, je me dis que le consortium va empocher les bénéfices et la collectivité, par le biais de nos cotisations sociales, de nos impôts, va payer les pots cassés avec l'augmentation des conséquences sanitaires qu'engendrera l'augmentation du trafic, tant au niveau du bruit que de la pollution atmosphérique. Suis-je à côté du sujet en disant cela ?
Alors écoute, Christian, la question est riche, elle contient plein d'interrogations. Alors effectivement, les collectivités territoriales auront un jour à payer les pots cassés. Pour le moment, quand même, à chaque fois que Casil Europe décide de mettre des sous de côté pour lui-même, pour ses actionnaires, les collectivités s'en mettent quand même elles aussi un petit peu de côté. Donc finalement, elles ne sont pas non plus tant à plaindre que ça. C'est pour ça qu'on trouve regrettable que justement, comme bonne mesure, nous demandons la création d'un observatoire du bruit indépendant et qu'elle rechigne alors que ça coûterait par collectivité 11 000 euros par an pour répartir donc ensuite à répartir chacune des collectivités. Donc on est vraiment on est quand même inquiet. Alors après, Mike Poon se présente comme le nouveau Jean Valjean des temps modernes. Je suis là pour faire croître et embellir la ville et tous les citoyens. Pour le moment, à part créer un super supermarket dans l'aérogare, on ne voit pas trop ce qu'il a fait, si ce n'est que le trafic n'a cessé de croître, et notamment dans les heures les plus pénalisantes pour la population, à savoir 22h minuit, mais aussi minuit 6h du matin, avec 25 vols chaque nuit. Donc, nous, ce qu'on voit depuis que Casil Europe est installée et que Mike Poon est revenu aux manettes, c'est que la situation a empiré à Toulouse pour les riverains, et notamment la nuit pour le sommeil de tous. Mmh. Voilà.
Et Landy, tu avais plein de questions, je suppose, à poser aussi à Chantal Beer-Demander.
Mais juste de faire un résumé pour nos auditeurs, est-ce qu'aujourd'hui, de faire un point sur la situation autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il y a combien de communes qui sont concernées par ces nuisances sonores?
Alors, la commune la plus impactée, c'est Toulouse. 85% du territoire et de la population, c'est Toulouse. Le reste, c'est au nord de l'agglo, il y a Haussonne et Cornebarieux, et un petit peu au-delà, Merville, Grenade, assez peu, mais quand même un peu. Et en dessous, au sud, on a Ramonville, Castanet, et on peut aller jusqu'à Dème, où les gens se plaignent aussi. Donc, c'est quand même, c'est important. Un peu Tournefeuille et Colomiers, surtout pour les vols d'essai. Et sinon, c'est Toulouse.
C'est quand même c'est un aéroport très, très urbain. Est-ce que c'est la mode en France? Parce qu'il y a Orly aussi.
Oui, alors Orly, il y a Nantes, Nantes Atlantique. Hein, voilà. Et aussi dans la ville, ça passe au-dessus du clocher de l'équivalent du Capitole, donc de leur mairie. Vraiment Nantes, Orly. Mais Orly a un couvre-feu. Donc Orly, il n'y a pas de vol entre 23h15 et 6h15 du matin. Alors qu'à Toulouse, je vous l'ai dit, il y a 25 vols. À Nantes, il y en a aussi. Moins, mais il y en a. Voilà.
Donc, il s'agit plutôt aujourd'hui d'un sujet, d'un problème de santé publique.
Complètement. Et d'ailleurs, se déroule en ce moment une enquête épidémiologique en France qui a débuté il y a 4 ans et dont on aura les résultats à la fin de l'année prochaine, avec des personnes qui sont étudiées dans le plan d'exposition au bruit, en dehors, des hommes, des femmes, des personnes qui ont une isolation, pas d'isolation, une vraie enquête scientifique, longitudinale, pour voir les effets du bruit sur la santé. Et déjà, les premiers résultats disent, oui, il y a une corrélation entre le bruit des avions et l'hypertension, notamment chez les hommes. Vous seriez plus fragile, plus sensible, messieurs, au bruit des avions que les femmes. À suivre, hein.
Voilà. Ah, mais tiens, ça me fait penser qu'habitant le quartier des Pradettes, un nouveau médecin m'a trouvé un peu de tension.
Eh bien, peut-être y a-t-il une corrélation, mais tu ne fais peut-être pas partie de l'échantillonnage des personnes qui ont été badgées.
Non, et voilà. Badgées, j'aime pas trop les puces, remarque.
Mais j'imagine bien. Voilà, donc, vrai problème de santé publique. Aussi bien, alors, là, on parle que du bruit, mais il y a aussi la pollution atmosphérique, les NOx, les PM10, les PM2,5, c'est-à-dire les microparticules, et que jusqu'à présent, pour des questions de stratégie, le trafic aérien calculait par unité de trafic, c'est-à-dire le nombre de passagers rapporté au nombre de mouvements. Alors que, enfin, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vient de dire « non, ce n'est pas une bonne façon de calculer, il faut calculer ce qui sort vraiment des réacteurs ». C'est un vrai pavé dans la mare du lobby aérien qui n'en revient toujours pas. Voilà.
Oui, en plus, quand on voit l'Airbus A380, je ne sais pas s'il passe la nuit ou pas. Après,
c'est assez rare, mais ça lui arrive. Et celui-là, il peut réveiller du monde parce qu'il passe à 82, 85 décibels. Voilà.
D'accord, donc, parce que le double de...
Donc, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Alors, celui qui nous embête le plus, c'est le gros Beluga. Celui qui transporte les pièces détachées des constructeurs. Alors, c'est embêtant dans la ville qui construit des avions de dire qu'on est hostile à ce passage d'avion. Mais en fait, c'est l'imprévoyance des constructeurs qui n'ont pas bien géré leur carnet de commandes qui fait qu'ils ont été obligés de mettre en route des avions la nuit, le Beluga, pour transporter ces pièces nécessaires à la construction. Alors, on nous annonce que maintenant, on va avoir un super Beluga qui transporte deux fois plus de pièces détachées, mais qui sera, entre guillemets, plus silencieux. Alors là, on demande à voir comment une grosse bébête, à peu près deux fois plus grosse, en tous les cas une motorisation, va pouvoir être moins bruyant. On demande à voir.
Peut-être qu'il faudra demander aux druides comment faire au niveau de la magie pour effacer un peu le bruit. Que sais-je, enfin, c'est une boutade. Des questions viendront sur les druides aussi. Mais Chantal, tu as aussi des responsabilités au niveau national, sauf erreur de ma part.
Oui, depuis pas loin de 4 ans, j'ai accepté d'être la présidente de l'Union française contre les nuisances des aéronefs. C'est-à-dire que dans notre fédération, on côtoie tous les représentants des autres associations de tous les aéroports en France. Alors, l'aviation commerciale, mais aussi l'aviation légère, les hélicoptères, l'aviation militaire. On commence à nous parler des drones, on a les ULM, enfin, tout ce qui vole, voilà, à part les moustiques, on s'en occupe. Voilà. Donc, c'est la tâche est lourde, c'est pavé d'embûches et surtout on a affaire à un lobby très puissant et qui ne veut rien lâcher sur rien. Mais enfin, quand même, ne disons pas ça parce que ce serait vraiment triste et on serait pessimiste. On a des avancées. On a des avancées pour l'aide à l'insonorisation des riverains. On peut obtenir des restrictions sur certains aéroports pour des avions particulièrement bruyants. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient quand même, on a une reconnaissance. On vient d'être reconnu, paraît-il, par la Commission européenne comme un lobby. Alors, ce n'est pas forcément une chance d'être un lobby, ce n'est pas forcément un terme très... Mais bon, ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans les riverains. Ils existent et c'est une force de proposition. Voilà. Donc, c'est ce que je peux à peu près dire sur cette Union française. C'est qu'en plus, ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe dans les autres plateformes, qui sont parfois mieux lotis, mais parfois moins bien lotis. Orly, bien sûr, ils ont un couvre-feu la nuit, mais ils ont 250 000 mouvements par an. Donc, c'est dire qu'ils ont un passage toutes les 2 minutes 5 à des hauteurs aussi pas tristes. Voilà, donc, et Roissy, ils ont 145 vols la nuit. Voilà, bon, tout ça, c'est pour donner une petite idée.
Quand vous parlez des aides pour les riverains, c'est quel type de travaux qui sont pris en charge et comment on bénéficie en fait ?
Alors ça c'est, on peut dire que la bonne idée, c'était effectivement d'appliquer le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les compagnies, à chaque fois qu'elles volent, viennent abonder un fonds. Ce fonds d'aide à l'insonorisation aide à insonoriser les riverains qui sont donc dans un plan de gêne sonore. Les limites en sont déterminées par la Direction générale de l'aviation civile. Et ils sont aidés. Alors, ils sont aidés à 80% du prix total des frais engagés. Pendant 2 ans, ça a même été à 100%. Mais c'est comme toujours, c'est plafonné. C'est comme le montant de la sécurité sociale, hein, pour vos lunettes. Même si on vous dit que vous êtes pris en charge à 100%, c'est quand même plafonné. Donc, il vous reste toujours un petit quelque chose à payer. Raison pour laquelle certaines personnes, même si elles sont très impactées, hésite à faire un syndrome. C'est quand même un grand plus de pouvoir, l'hiver, toute fenêtre fermée, dormir sans être réveillé, a priori. Voilà. Mais en ce moment, par contre, qui fait beau, qui fait beau. Qui pourrait faire beau. c'est embêtant, quoi. Voilà. Hein, de avril à octobre, à Toulouse, quand il y a du soleil, c'est très embêtant parce que si on n'ouvre pas les fenêtres, on meurt.
Oui, il y a ça. Mais de toute façon, pollueur-payeur, mais en ce qui concerne la pollution atmosphérique, niette.
Non, pour la pollution atmosphérique, il n'y a rien de prévu pour le moment. Donc, on attend et puis on est en train d'engager des recours parce que la Commission européenne a taclé la France en disant que c'est un mauvais élève en matière de gestion de sa pollution atmosphérique, pas simplement celle du trafic aérien, mais aussi et surtout du trafic routier. Mais le trafic routier est en train de mettre en place des réductions effectives sur tous les moteurs de voitures que le transport aérien, lui, n'arrive pas à faire, parce que ce n'est pas encore possible, ce n'est pas dans la technologie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le trafic routier est en train va faire baisser sa pollution, et d'ici quelques années, le transport aérien sera un des plus gros contributeurs au niveau de la pollution locale et des gaz à effet de serre.
C'est superbe. Et peut-être qu'il n'y aura plus assez de carburant pour faire tourner, sauf peut-être à ce moment-là d'utiliser le solaire et d'autres énergies.
Bon,
ils en trouveront toujours.
Voilà, à chaque fois que Total creuse, ils trouvent. Et justement, la fonte des neiges libère des terrains qui sont propices justement à l'extraction. Bref, c'est pas génial. Mais pour le moment, nous, on ne voit pas que... Et la dernière goutte de kérosène ou de pétrole, elle sera pour un avion, on le sait. Donc pour le moment, ils ont encore de beaux jours devant eux.
Voilà. Mais ce qui n'est pas forcément un bon plan, une bonne chose. Non. Parce que quelquefois, les transports en avion, maintenant, coûtent moins cher que ceux même en train.
Oui, parce qu'on ne paye pas le vrai prix du transport aérien, parce que le kérosène n'est pas taxé. Donc, quand on va à la pompe, nous, on paye beaucoup. Mais eux, si le transport, le transport aérien allait à la pompe, et on pourrait payer enfin le vrai prix du transport aérien. Alors, on n'irait pas, effectivement, pour 9 euros à l'autre bout de l'Europe. Peut-être que du coup, peut-être que ça ne va pas satisfaire tout le monde, mais on paierait quelque chose de plus vertueux. Voilà.
Alors, Sandrine et Loïc, vous pouvez aussi poser des questions à Chantal et vice-versa. Après, Chantal pourra poser des questions.
Elle posera des questions, ouais, Chantal.
Loïc, tu avais...
Alors, en écoutant madame, j'ai oublié le prénom.
Chantal.
En écoutant Chantal, je me disais que ça pourrait être bien de réétudier les plans des châteaux Qatar, hein, parce qu'avec tous ces problèmes aériens, on voit qu'eux s'étaient mis bien retirés dans des hauteurs et que peut-être faudrait retourner et construire des villages autour des châteaux Qatar. Enfin, non, c'est une petite boutade, mais c'est vrai qu'ils avaient déjà ils avaient anticipé, on pourrait dire, par rapport à tout ça, puisqu'ils, malgré, il n'y avait pas du tout autant de problèmes dans les villes, mais ils avaient déjà eu cette... intuition de se retirer un peu du bruit, alors qui était quand même beaucoup moins important qu'aujourd'hui, mais d'être dans des espaces plus préservés, en harmonie avec la nature.
Après, aujourd'hui, nous sommes assez intelligents. Il y a d'autres pays. Chantal, elle peut confirmer, parce qu'elle connaît mieux le sujet. Il y a d'autres pays où les aéroports, on les construit...
Mais oui,
un petit peu loin des centres-villes.
Oui,
alors. Moi, je connais un petit peu l'Italie, je connais Milan. L'aéroport de Milan, il n'est pas collé à la ville de Milan. Pas, tu dois faire en fait à peu près une trentaine de kilomètres ou 40, voire plus. Il y a d'autres pays qui ont construit des avions. Ouais. On peut dire qu'ici à Toulouse, peut-être l'aéroport, il existait avant, mais quand tu vois, je ne sais pas, ça ne fait même pas 5-6 kilomètres avec la place du Capitole.
On est à 6 km du Capitole.
Mais
quand les Allemands sont arrivés en 1944, déjà, ils ont dit cet aéroport, il est trop près de la ville. Donc, il a toujours été à 6 km du Capitole. Donc, on n'aille pas dire que c'est les gens qui se sont installés dessous. Parce que ça, on nous fait souvent le procès en disant vous êtes venus vous mettre dessous. Parce que vous étiez
C'est pas la première fois. Excusez-moi de vous couper. J'ai un mauvais souvenir aussi. Le PDG de Total, par rapport à ZF.
C'est le même combat.
Il disait la même chose. Alors que, en fait, il faisait la guéguerre aux riverains qui se trouvaient à côté. Mais la place de Capitole. C'est la faute, je pense, de la place des Capitoles. C'est la faute à Toulouse qui existait
avant
tout.
Exactement. Non, mais c'est un vrai sujet, ça. Le positionnement des aéroports en France, bon, parce qu'on est sur un territoire un petit peu plus réduit, mais par exemple, aux États-Unis, un aéroport gêne, pouf, on le ferme, on va à côté. Mais en France, maintenant, et depuis notamment le Grenelle 2, on ne peut plus construire d'autres aéroports. Alors, ça va faire plaisir à ceux qui défendent l'écologie en disant c'est bien qu'on n'artificialise pas encore. Plus la mais il y a un problème. Si on veut continuer à prendre son avion comme on veut prendre sa bicyclette, eh ben alors il faut qu'on continue à créer des aéroports. Ou alors on dit ben non, on va toucher à la mobilité. On va dire que ben toi Christian, je sais pas si tu prends souvent l'avion, mais le jour où tu prends la retraite, eh ben tu voyageras qu'une fois tous les 3 ans en avion. Vous allez faire que de la vidéoconférence. Toi qui t'occupes des Qatar, eh ben tu vas surtout rester pas prendre l'avion. Voilà, on va toucher au droit à la mobilité, qui est pourtant un droit
fondamental.
Voilà, fondamental. Mais c'est une vraie question.
Il y en a plein de questions. Allez, nous allons nous tourner alors du coup vers les Qatar aussi, pour revenir peut-être en avion ou pour planer tout simplement, peut-être au-dessus aussi des forêts que tiennent les druides. Mais en tous les cas, Sandrine Massé, donc toi tu es visiblement là, tu es la l'organisatrice ou coordinatrice d'un week-end qui va se dérouler les 15 et 16 septembre prochains. Et le guide, c'est Loïc Albicetti, donc ici présent, qui est aussi enseignant d'une tradition dont il va nous parler ou nous reparler, puisque tu l'avais évoqué lors de ta précédente venue. Mais en attendant, donc, as-tu à déclarer, Sandrine ?
Eh bien, déjà, je suis très contente d'être là et puis de présenter ce beau séminaire, parce que maintenant, ça fait 6 ans qu'on l'organise avec Loïc. Et eh bien, ça a comme un impact sur la vie des gens qui viennent nous rencontrer et qui vivent cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience quand même particulière, parce que ce n'est pas que la visite des châteaux. On va dans des lieux, dans la nature, où les druides faisaient aussi des pratiques, et où ils faisaient des rituels de purification, de thérapie. Et donc, ça, comme on fait carrément ces rituels, et ça impressionne beaucoup les personnes qui découvrent pour la première fois. Et surtout, ils n'ont pas trop cette vision que les cathares étaient très proches de la nature et que toutes leurs initiations se faisaient dans la nature et dans les grottes, voilà, et notamment dans les montagnes.
C'est peut-être ce qui a gêné certains catholiques intégristes.
Oui, c'est pas uniquement ça ce qui les a... c'est pas vraiment
non,
ce qui les
c'était...
gênait le plus, mais bon, Loïc est beaucoup plus aguerri pour parler de ça, mais c'était surtout le fait qu'ils étaient proches du peuple, que le peuple les aimait énormément, parce que c'était des gens très très simples en fait, hein, et que ils ont été les premiers à traduire en fait ce qu'ils disaient en latin et que le peuple ne comprenait pas. Ils ont traduit les évangiles en fait en occitan, et ça pour le peuple c'était énorme, parce qu'en fait ils découvraient le vrai message du Christ, et alors ça, ils ont bien vu que ben voilà, bon, je vais peut-être pas me faire des amis, mais à l'époque voilà,
ils ont bien vu que le clergé les entubait plus,
les bagouses, les robes et tout ça, c'était pas véritablement le message du Christ, et ça, bon, là-dessus ils se sont pas fait vraiment des amis. Mais je vais laisser la parole à Loïc, parce que lui il est vraiment spécialiste de ce domaine des cathares, voilà. Mais nous, on est très heureux d'organiser ça. On voit que chaque année, déjà, de plus en plus de monde viennent découvrir. Et c'est vraiment une grande révélation pour tous ceux qui viennent de voir cet éclairage.
Le rendez-vous est fixé où au départ ?
Alors, on se retrouve en fait près de Montségur. Enfin, c'est près de... Oui, non, je dis des bêtises parce que ça, c'est pour l'autre séminaire. Mmh. Non, près de Ozat, en fait. Ozat, c'est pas loin de Tarascon.
Mmh. Au pied
du Mont Calme. Mmh. Voilà, parce qu'on a changé de centre, en fait. Et on se retrouve là-bas le vendredi soir. Là, on y fait déjà une petite soirée festive pour se retrouver, une sorte d'auberge espagnole. Loïc fait une première conférence pour introduire le travail sur les cathares. Et moi-même, je présente en fait tout ce qui va se faire pendant le séminaire. Et puis ensuite, eh bien, le samedi, voilà, on part dans ces lieux sacrés, déjà pour regarder un peu tout le travail qu'il faisait avec l'eau, l'élément eau. Ensuite, on va aussi dans les grottes. Le dimanche, nous partons à Montségur, et là, on parle pas mal du consolamentum. Bon, ça, Loïc va en parler aussi tout à l'heure. Et puis, on fait aussi un petit passage à Puyvert, où on danse des danses médiévales pour justement rendre hommage aux troubadours qui ont préparé en fait tout le travail des cathares. Eux ont amené toute cette philosophie de l'amour courtois, de aussi à travers des poèmes, de dire des vérités qu'à l'époque on ne voulait pas forcément entendre. Donc on va leur rendre hommage, on se déguise, on danse des danses médiévales, et là on aura même un petit concert de ce qu'on appelle les troubadours modernes, c'est-à-dire qu'on a des amis qui font des chansons un petit peu... voilà, dans l'état d'esprit des troubadours qui feront un petit concert au château de Puyvert. Voilà, et puis le lundi, on poursuit aussi, et on va voir les grottes. Et là, Loïc nous raconte tout le parcours initiatique que parcourait un candidat cathare pour arriver justement après à enseigner et à transmettre l'enseignement des cathares. Voilà.
D'accord.
Je ne vais pas être trop bavarde.
C'est très bien. Hein. Non, non, tes explications sont claires et tout à fait intéressantes. En fait. Je ne sais pas ce qu'en pense Chantal.
Tout à fait. Ça nous met en appétit. Et c'est ce vendredi ?
Non, c'est en septembre.
On prévient à l'avance parce que c'est quand même.
15 et 16 septembre.
Ben, c'est important. Oui,
Laissez du temps.
Voilà, très bien. On n'est pas dans l'immédiateté. Ok. Ah ben merci.
Et donc, Loïc Albicetti, qu'est-ce que tu as à dire en plus par rapport à ce que vient de nous raconter Sandrine ?
Alors, moi, je peux expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, parce que je suis arrivé un peu...
Oui, parce que toi, tu es aussi enseignant dans la tradition essénienne. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la tradition essénienne ?
C'est vaste, mais la tradition essénienne, c'est une tradition qui, pour nous, est comme... on pourrait dire une tradition primordiale, c'est-à-dire une tradition dont on retrouve les traces, les rites, les coutumes dans finalement beaucoup de traditions des peuples, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les druides, les Égyptiens, les Pythagoriciens, c'est-à-dire des êtres qui avaient vraiment une vocation d'aider l'humanité, de l'accompagner, de l'éduquer, de faire que l'harmonie règne dans toutes les couches de la société, une des dernières vraiment grandes civilisations, on va dire, de ces êtres qui ont été comme des guides de l'humanité, c'est l'Égypte, c'est-à-dire où la sagesse, ce que nous on va appeler la sagesse essénienne, mais qui a eu beaucoup de noms, où cette sagesse régnait jusque dans un gouvernement qui était vraiment au service de l'humanité, au service du bien, au service de Dieu, pour que l'humanité soit... dans une harmonie, dans une protection, un bien-être, un bonheur, voilà. Et alors ensuite, dans l'histoire, on voit par exemple, il y a cette histoire de Moïse hein, qui quitte l'Égypte, et on parle d'un peuple juif, mais en réalité, ça demanderait d'autres explications, mais il n'y a pas vraiment de peuple juif au sens qu'on l'entend en général, puisque c'était des Égyptiens, on le sait aujourd'hui, et juif voulait simplement dire, vient de l'Égyptien Yahoudé, hein, qui a donné Yehoudim, les Juifs, et voulait dire prêtre, c'est-à-dire, pour nous, en tout cas dans notre vision essénienne, mais qui est de plus en plus prouvée par les égyptologues, Moïse, et donc ceux qu'on a appelés les Hébreux, étaient des Égyptiens. C'est simplement que ils ont été comme en captivité à Babylone. Ils ont dû fuir l'Égypte parce que, justement, celui qui était le pharaon a voulu comme prendre le pouvoir et faire un peu ce qu'il voulait. Alors qu'avant, les pharaons étaient vraiment des êtres au service du peuple, de l'harmonie universelle, même de l'harmonie cosmique, parce qu'on disait que pharaon incarnait comme l'ordre, l'équilibre. Et il était dans une fonction vraiment impersonnelle. Et à l'époque de Moïse, il y a eu comme un début de la politique, c'est-à-dire, mais déjà depuis un certain temps, les pharaons tendaient vers la politique comme on peut la voir dans son accomplissement aujourd'hui, c'est-à-dire le côté du double langage, des magouilles, de tout ça. Et donc ce peuple...
ils l'ont bien suivi. C'est bien. Hein. Alors là, parce qu'aujourd'hui, bravo, voilà, là, ce sont les champions.
C'est clair. Et donc...
Ne mettons pas le glyphosate contre l'interdiction du glyphosate dans la loi, mais nous arrêterons le glyphosate.
Comme les vaccins, si on peut, si on peut soutirer encore un peu d'argent, allons-y.
Et oui, voilà, et c'est pour ça que nous avons une ministre de la maladie et non pas de la santé.
C'est exactement ça. Ce qui aurait été justement une aberration à l'époque de l'Égypte, où ça aurait été. Perçu comme complètement insensé. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette tradition essénienne, donc elle remonte, disons que l'Égypte est vraiment un exemple de cette tradition. Et après, on parle comme d'un exil, hein, on parle d'un exode dans la Bible, c'est-à-dire que les êtres qui ont voulu rester fidèles à cet ordre ancien, à cette harmonie, rester fidèles à Dieu, à leurs engagements de prendre soin de l'humanité, de la terre, ont été comme en exil. Et à partir de ce moment-là, on a vu des grands sages, c'est-à-dire dont Moïse était, qui était, parce qu'on sait aujourd'hui que Moïse était le pharaon légitime. Et il a été exclu parce que le pharaon qui était en place voulait garder son pouvoir, le maintenir, et donc voilà, il y a eu ce fameux exode. Et à partir de là, on sait que ce qu'on a appelé les Esséniens proprement dit, hein, donc, qu'on rattache souvent à la communauté de Palestine du temps de Jésus, hein, parce qu'on a découvert avec les manuscrits de la Mer Morte que Jésus n'est pas tombé de nulle part, que Jésus n'était pas un chrétien ni un catholique, puisque ça n'existait pas, mais qu'il était un Essénien, donc d'une tradition qui remonte au prophète qu'ils appellent Enoch, qui remonte à des temps très très lointains. Et donc Jésus a été vraiment un représentant de cette tradition qui, après Moïse, est passé par le prophète Élie aussi, et c'est-à-dire des êtres qui, un peu comme les cathares, on va retrouver ça après chez les cathares, qui se sont comme retirés, qui voyaient comme l'humanité dégénérée, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a occulté de nos livres d'histoire, mais il y a eu des âges, on parle d'âge d'or, il y a eu des âges d'or dans un passé très lointain, dont on ne nous parle pas dans nos livres d'histoire, mais ça a existé, il y a eu des gouvernements qui étaient réellement gouverné par des sages. L'Inde en garde le souvenir dans ses textes sacrés. Et sauf que voilà, ça a été comme oublié. Donc ces communautés esséniennes se sont constituées en villages pour maintenir leur lien avec la tradition des origines, avec le cosmos, avec la terre, ce qu'ils appelaient la terre-mère, le dieu la mer. Et voilà, il y a eu tout un courant comme ça. Donc, parallèle à la tradition juive qui a eu tendance à se cristalliser, justement à se politiser beaucoup, on voit notamment dans les histoires de l'Ancien Testament, autour du roi David, il y a eu beaucoup de choses où on voit que la religion, justement, c'est comme politisée, c'est ce qu'on va retrouver après à l'époque des cathares avec l'Église romaine, hein, qui a fait plusieurs fois des pactes avec le côté politique pour avoir un pouvoir. Donc ça, c'était vraiment étranger à cette tradition essénienne qui se voulait vraiment gardienne d'une pureté, d'une authenticité de la religion, de la sagesse. Et donc, ce courant a cheminé de plus en plus secrètement, parce qu'il a été souvent persécuté depuis cet exode. Et Jésus, donc, Jésus faisait partie de cette communauté, hein, c'est ce qui a été retrouvé à travers les manuscrits de la Mer Morte. Et on sait qu'il était qu'il a grandi dans ces villages esséniens, et où il y avait tout un enseignement, toute une sagesse qu'on a comme prêtée à Jésus, mais qui en réalité était vraiment ancestrale et venait déjà même d'Égypte. Ça, c'est un lien qu'on a rompu aussi dans la conscience, dans l'inconscient collectif, parce que le christianisme, finalement, est très lié, je ne pourrais pas développer ça là, mais est très lié aux enseignements égyptiens. Et donc, ce courant a cheminé. Et il y a eu comme, après Jésus, c'était vraiment un aspect fondamental pour les cathares, il y a eu comme deux églises, c'est-à-dire il y a eu le courant de Saint-Pierre, hein, l'église de Rome qui se réclame de Saint-Pierre, et puis il y a eu un courant plus secret, lié à Saint-Jean, hein, qu'on voit bien dans les évangiles qu'il est, on l'appelle le disciple bien-aimé, c'est-à-dire celui qui a vraiment reçu l'ésotérisme et l'enseignement intérieur, on va dire, du christianisme, et qui a voulu garder pur cet enseignement. Et donc, il y a eu tout un courant comme ça, qui est passé aussi après par le grand prophète Mani, pareil, qui a été un peu occulté de notre histoire, mais qui a été un être qui a amené une grande lumière sur la terre, notamment l'idée même de la laïcité nous vient de Mani, qui était comme, pour nous, qui est un maître essénien, c'est-à-dire essénien pour nous, ça veut dire de cette tradition qui restait fidèle à la pureté des anciens et des origines. Et ensuite, on a eu cette, pour en arriver au Qatar, il y a eu donc le manichéisme a été énormément persécuté, hein, mais il a eu un grand rayonnement pendant plus de 1000 ans, parce qu'on a retrouvé même des textes, hein, de Mani jusqu'en Chine. Il a vraiment eu la religion de Mani était proche du Bouddha, c'est-à-dire que c'était vraiment une religion pacifique qui prenait le dialogue entre toutes les religions, entre toutes les cultures, et qui était vraiment, voilà, vraiment pacifique, avec un message vraiment d'éducation intérieure, c'est-à-dire pas seulement d'avoir la foi dans quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais vraiment de développer une connaissance réelle, scientifique, on pourrait dire, de l'homme dans son lien avec la nature, avec le cosmos, avec tout ça. Et le manichéisme, après, donc, est aussi allé vers l'Europe, à travers notamment la Bulgarie, où ça s'est plus enraciné, donc qui s'appelait la Thrace à l'époque, qui était beaucoup plus grande que la Bulgarie, qui englobait la Grèce aussi. Et c'est là où il y a eu ce courant bogomile qui est donc à l'origine des cathares. Puisque quand on parle des cathares, en fait, c'est vraiment ces communautés bogomiles, donc qui sont liées aux manichéens, qui sont liées aux Esséniens du temps de Jésus, et qui ont perpétué cet enseignement secret, on va dire, intérieur, ésotérique du Christ. Et eux-mêmes ont été persécutés au bout d'un certain temps, puisque l'influence de l'Église, qui était donc l'Église orthodoxe en Orient, était très influente. Et ils ont été persécutés, et donc ils se sont déplacés vers l'Occitanie. Donc on en arrive à l'Occitanie, où il y avait, comme le disait Sandrine, tout un essor de liberté, un peu de sortir du carcan religieux, du dogme qu'avait imposé l'Église, avec ce courant troubadour qui amenait déjà tout un élan de liberté, d'expression, de liberté d'expression, avec Puyvert, avec vraiment voilà, les cours d'amour de Puyvert, et la langue même, la langue occitane qui est vraiment apparue à cette époque, donc après la chute de l'Empire carolingien de Charlemagne. C'était vraiment des peuples libres, hein, l'Occitanie a vraiment gardé ça, c'était des peuples qui n'étaient pas inféodés à la couronne de France.
Hein. L'Occitanie a gardé Christian. Toujours une tonne de liberté, d'ailleurs.
C'est pas toi qui vas me dire le contraire.
Et non, c'est pour ça que...
Nous le revendiquons.
D'où l'émission Et si demain aussi. Allez, nous allons marquer justement, okay. Puisque tu as parlé de liberté, de temps et tout ça, justement, il y a un chanteur que nous avons reçu aussi dans cette émission Et si demain, Simon Chouf, que je salue au passage, et ça s'appelle Ça va péter. Donc voilà. Hein, en Occitanie, nous ne sommes pas toujours d'accord avec le pouvoir central.
Les cathares sont toujours là.
Voilà. Donc nous allons retrouver Simon Chouf.
Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Fascisterie, Roland de Croix. Car où qu'il se cache, Dieu n'existe pas. Pendu à qui, pendu à quoi? Pantin pardi, planté, pantoi. Si on nous attache, on veut pas rester là. Au-dessus de nos têtes, le ciel brille, rayonne sud. Le toit du monde, ça va péter. Tu l'entends l'orage arrivé, ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup, ça va, ça va. Y a trop de guerres, de chars d'assaut, pour des frontières ces murs trop hauts. Mais s'en vaut-il la peine pour rire nos caniveaux, les poings en l'air face à l'écho, quand sur la terre crient les corbeaux. Des champs remplis de haine, d'un idéal pas beau. Au-dessus de nos têtes, le ciel gris rayonne sur le toit du monde. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va. Ça va. Politicon, pétrodollar, pipo, pognon. On cessera d'y croire, on fera trembler vos pions. Devoir, mémoire, révolution. Pouvoir, pétard, feu, explosion. L'amnésie de l'histoire, du monde qui tourne en rond. Ça va péter, tu l'entends l'orage arriver. Ça va péter de partout, ça va péter d'un seul coup. Ça va, ça va. Ça va péter, tu l'entends. répète d'un seul coup. Ça va, ça va.
Ça va péter, ça va péter, mais ça va chauffer aussi. Et puis, nous avons aussi à défendre des alternatives dans l'émission. Et si demain sur Esprit Occitanie, émission en direct. Après, il y a les podcasts, il y a les rediffusions. Et merci Alan Delahaye aussi pour la réalisation technique, parce que c'est important, je le dis chaque fois, mais c'est vrai, sans toi, ben, nous n'existons pas non plus. Hein. Personne ne nous entend. Et alors, il y a plein d'idées, plein de choses qui sont brassées dans cette émission, notamment donc, avec Chantal Baird de Mander, et par rapport à toutes les nuisances qu'on nous saupoudre comme ça en disant bah non, mais non, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Et puis nous avons Sandrine Massé aussi et Loïc Albicetti pour nous parler des cathares, mais aussi des druides et tout ça. Fait la vie aussi. Et justement, par rapport à ce que tu disais, la connexion, le respect de la nature et tout, moi, j'ai l'impression que la plupart, alors, ne parlons pas de Trump, mais même en France aussi, quand on nous dit, oh non, mais c'est pas grave si on n'a pas mis dans la loi l'interdiction du glyphosate, de toute façon, il y en aura plus du glyphosate, mais ce soit de glyphosate ou autre chose, de toute façon, tous ces poisons-là qui tuent les terres, et après, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y ait des inondations, en veux-tu, en voilà. Bien sûr, il y a trop d'eau qui tombe en ce moment sur notre pays, mais n'empêche qu'en ayant arasé les, en faisant des labours énormes, donc en creusant, mais en tuant les terres, l'humus et tout ça, il ne faut pas s'étonner. Et en bétonnant, en bitumant un petit peu n'importe comment. Et justement, les cathares, mais aussi les druides et tout ça, il y avait ce respect, cette attention au niveau notamment de l'arbre. Et vendredi dernier, dans l'émission Traversée, nous avons avec l'association des arbres d'OTAN, nous avons parlé justement de l'intérêt de garder l'arbre, et notamment les vieux arbres qui ont beaucoup plus, finalement, qui nous donnent beaucoup plus encore que les jeunes arbres, même si on déracine, par exemple, ou on tue un arbre qui est plus que centenaire, qu'on le coupe et qu'on replante 10 petits arbres, ils n'ont pas les mêmes effets.
Oui, ça me fait penser aussi que même, c'est comme un reflet un peu de ce qu'on fait aux hommes, c'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas mûrir et aller vers la sagesse. C'est très révélateur, le fait de déforester comme ça, d'empêcher les arbres de grandir, d'aller vers, de mûrir, d'être centenaire, millénaire. Et moi, je vois moi-même dans mon propre parcours, ce qui m'a amené vers le catharisme, j'ai vraiment pris conscience de ce déracinement, parce que j'étais en Normandie, mais bon, quand même en France, et j'ai découvert l'histoire des cathares à 18 ans, et ça a été vraiment une révolte intérieure de voir que dans nos livres d'histoire, alors peut-être c'est pas le cas en Occitanie, mais il n'y avait pas une ligne sur les cathares, alors que s'il y a bien une histoire dont on devrait nous parler, qui est pleine d'enseignements, de sagesse, c'est bien celle-là. Et j'ai vraiment pris conscience de ce côté de déracinement. Et quelque part, certains êtres ont intérêt à ça, parce que plus un être est déraciné, plus il est faible, plus il va accepter n'importe quoi, n'importe quelle loi, n'importe. Alors qu'un être comme les cathares, comme les Gaulois, comme tous ces êtres. On ne pouvait pas leur faire avaler n'importe quelle salade ou couleuvre ou tout ce que tu veux. Et donc, cette histoire de l'arbre, c'est intéressant, parce qu'il y a une tendance aujourd'hui dans notre époque à perdre nos racines, et on devient des êtres complètement un peu des girouettes, des êtres qui sont dans une perte d'identité, on ne sait plus d'où on vient, qui on est, alors qu'on a vraiment des racines puissante, même en France notamment. Enfin, nous, on parle beaucoup de la tradition cathare et druidique, puisqu'elle est vraiment liée à ces terres sur lesquelles on est, et qui ont beaucoup de choses à nous enseigner, et notamment par rapport à la nature. C'est intéressant de voir que les cathares, c'est des choses dont on ne parle pas forcément en lien avec les cathares, mais étaient vraiment des maîtres dans l'art du maraîchage aussi, hein, toute la culture des plantes, même les femmes, hein, donc c'est là où il y a le lien avec les druides, hein, où les femmes cathares avaient, comme les druidesses, la connaissance des plantes, de la médecine des plantes, vers laquelle on essaie de revenir aujourd'hui, hein, parce qu'on voit qu'avec toutes ces lobbies pharmaceutiques, tout ça, on nous a enlevé des choses qu'avant on trouvait naturellement dans la nature, et ça aurait été une aberration pour nos anciens de devoir payer pour, ouais. pour comme aujourd'hui c'est naturel ça... de payer l'eau par exemple.
Non, oui,
et bientôt on payera l'air. Hein.
Tout à fait. L'eau est un bien commun.
C'est ça.
La nature est un bien commun, mais qui sont en train de financiariser aussi. Ouais, donc ça, c'est une aberration. Landy, tu as plein de questions, je vois que tu as noté. Je ne t'ai pas laissé la parole depuis un moment, donc je me tais.
Bon, c'était tellement intéressant qu'on apprend des choses, on découvre des choses que voilà, donc on n'a pas cette... c'est juste pour faire, même pour nos auditeurs, de parler un petit peu des cathares, de dire un petit peu, de nous parler de leur rite, de leur vision, de la religion, et etc. Parce qu'on n'a pas, c'est une petite heure qu'on a à disposition.
Oui, bien sûr. Ben effectivement, dans leur vision de la religion, c'est là où ils se sont heurtés aussi aux catholiques, parce qu'ils avaient justement, ils disaient, c'était vraiment une parole des cathares, que la nature était le vrai temple. Et ça les gênait, les catholiques, parce qu'ils avaient leurs églises, tout ça, ça leur donnait une force. Ils étaient implantés dans les villes, ils avaient une influence très forte qui passait par, entre autres, mais assez fortement par les églises. Et eux, les cathares, prônaient comme une autonomie dans la foi, c'est-à-dire de permettre aux êtres de se relier eux-mêmes, de pouvoir se relier eux-mêmes à Dieu, et que Dieu ne soit pas une abstraction. Et donc, que Dieu est vraiment... se révèle, dans l'évangile de Saint Jean, on dit le Verbe s'est fait chair, mais pour eux, ce n'était pas juste Jésus. Le Verbe se fait chair, ça voulait dire le Verbe, l'intelligence divine, est omniprésente. Elle nous parle à travers l'arbre, justement, dans lequel on peut voir des analogies avec l'homme. Elle nous parle à travers l'animal, à travers tout ça. Et donc, pour eux, la religion était vraiment un art de vivre avant tout. Avant d'être une croyance, une foi, un dogme, c'était un art de vivre en harmonie avec son entourage, avec d'avoir cette conscience de l'unité. Voilà, c'était très important pour un... Moïse dit au Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Ça veut dire, mais ils ont un peu transformé cette parole. Ça veut dire, elle est très simple, cette parole. Ça veut dire que Dieu est unité à travers les pierres, les plantes, les animaux, l'humanité, que tout ça forme un seul corps et que Dieu n'est pas dans un monde abstrait, hypothétique, mais il est là à travers la terre qui nous porte, l'eau qui nous abreuve, l'air qu'on respire, le soleil, les étoiles, et donc la religion, voilà, pour eux, était un état d'être en harmonie. En harmonie, c'était vraiment les enseignements des Esséniens. Donc le rite aussi consistait vraiment à s'unir avec les esprits, hein, parce qu'ils parlaient d'esprits de la nature, comme les peuples animistes. Hein, c'était des animistes, les cathares comme les druides, et que la nature était peuplée de créatures vivantes, d'êtres invisibles, qui, si l'homme allait vers eux, alors avait le pouvoir de rétablir une harmonie, même jusque dans le corps. C'est pour ça qu'ils faisaient beaucoup de rites thérapeutiques, même par des immersions dans l'eau. Ils avaient des rivières, comme en Bretagne, qui étaient sacrées, qui étaient thérapeutiques. Et donc, ils avaient un art, par une science qu'on pourrait appeler, qui s'appelait la magie, hein, ce mot a été galvaudé, détourné, mais c'est-à-dire un art de mettre en action des forces, de se relier à des forces de la nature qui vont guérir l'homme de l'intérieur dans ses troubles, dans ses disharmonies, dans des conflits qu'il peut avoir. Voilà. Et donc, voilà, la religion pour eux, c'était... On retrouve d'ailleurs, c'est l'essence du mot religion, religare, se relier, c'est-à-dire l'art de se relier. On parle de connexion aujourd'hui, mais c'est ça, de se relier avec... une harmonie, avec une paix, avec qui est là dans la nature, et donc que Dieu, on ne doit pas le chercher loin dans des hauteurs ou à travers des églises, puisque eux, ils disaient voilà que la nature était le temple de Dieu, que l'homme lui-même était le temple de Dieu, et que si l'homme se reconstruisait intérieurement, c'était ça le chemin de l'initiation cathare, alors il devenait lui-même un temple de la divinité et un être par qui peut passer la divinité à travers des belles paroles, à travers... Ils cultivaient vraiment cet art de la belle parole. C'est pour ça qu'on les a appelés, c'est le peuple, hein, qui les a appelés les bons hommes, les bonnes dames, parce qu'ils portaient vraiment cette vertu de la bonté. Pour eux, Dieu se révélait à travers la bonté. C'était tout l'enseignement du christianisme. Et ils cultivaient la bonté dans leurs regards, dans leurs paroles, de jamais juger, critiquer. Ils avaient vraiment une éthique intérieure très exigeante. Ils n'étaient pas exigeants dans des choses extérieures, un peu comme imposait l'Église catholique, mais plutôt comme une hygiène de vie intérieure de travail sur soi, de vigilance. De,
voilà. Oui, Chantal. Juste un petit quelque chose par rapport aux églises. En dehors du fait quand même qu'on a eu de très belles constructions, des édifices magnifiques, les églises ont permis aux hommes de se rassembler, bien aux hommes et aux femmes. Donc, c'est la maison de Dieu, bien sûr, mais c'est surtout la maison des chrétiens. Oui. Donc, moi, c'est en ce sens que le fait de dire la religion, elle relie les hommes et les femmes entre eux, que je trouve ça intéressant. Oui. Voilà,
donc, bien sûr, non, mais pour moi, c'est clair qu'il y a un côté très positif hein, dans les églises, même vous voyez, dans les campagnes, avant, même il n'y a pas si longtemps, ça avait au moins, même si la religion pouvait remettre en question certaines choses, mais ça avait le mérite, effectivement, d'unir les gens autour de... Il y avait l'église au milieu du village. Tout ça a amené des très belles choses. Mais les cathares aussi, justement, avaient vraiment à cœur ce côté universel, que la religion ne soit pas limitée... qu'on n'impose pas de recevoir le baptême comme c'était à l'époque catholique pour aller à la messe ou quoi, que vraiment pour eux, tous les êtres étaient des créatures de Dieu et l'humanité était une famille et ils avaient cette particularité vraiment d'honorer le divin dans toutes les traditions, notamment par exemple les philosophes grecs comme Platon ou même Pythagore étaient reconnus. Ils ne parlaient pas seulement de Jésus, ou ils parlaient aussi du Bouddha, tous ces êtres étaient, ils étaient dans une universalité, une vision universelle, et pour eux c'était un piège de limiter la religion toujours à un prophète. On l'a vu d'ailleurs, c'est ça qui a engendré les guerres de religion hein. C'est parce que chacun s'est octroyé l'exclusivité de Dieu et de la foi, et les cathares était vraiment vigilant à ce sujet et voilà, prôner une vision universelle et une tolérance de toutes les religions.
Alors Chantal, est-ce que peut-être aussi, est-ce que les avions étaient aussi finalement consacrés comme des dieux qu'il ne fallait pas toucher, en tous les cas pas toucher au capital peut-être?
Aujourd'hui, le lobby aérien, la construction aéronautique, l'avion, c'est un dieu. Hein, c'est donc alors on parlait relier les gens. Alors c'est vrai que l'avion il permet d'aller d'un endroit à l'autre, de relier les gens, mais est-ce qu'il les relie bien quand on va sur une plage pendant une semaine, qu'on dépense des milliers d'euros pour pas profiter forcément du pays? Enfin bon, il y a plein de choses à revoir. Alors il y a aussi la santé des gens, la santé d'un aéroport. Elle se compte à son nombre de plaintes. À Toulouse, par exemple, on a fait exploser le nombre de plaintes en un an. Alors, toujours pareil, on peut lier ça à l'arrivée de nos petits amis les Chinois. Et donc, je ne saurais trop inviter nos amis qui sont gênés par le bruit des avions à aller sur notre site. On peut déposer plainte en ligne pour un avion qui nous a réveillés, qui nous a empêchés d'écouter la radio, de regarder la télé, de prendre un pot avec les copains dans le jardin, qui nous a gênés. Donc, on va, c'est en ligne, c'est très simple. On met son nom, son prénom, etc. On dit « j'ai été gêné ». Et on est bientôt à 1 millier de plaintes, alors que jusqu'à présent on était à quelques dizaines de plaintes parce que les gens savaient pas faire. Et ces plaintes sont envoyées directement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Elles sont envoyées à chaque représentant des collectivités territoriales et on les reçoit nous aussi. Donc, les collectivités, les représentants peuvent pas dire non, moi je suis pas au courant, les gens sont pas malades. Enfin, donc ils ont tous les matins quand ils regardent leur portable, la plainte de Monsieur Untel, Madame Untel, etc. Et donc, ça nous semblait important de redire que on peut se plaindre à Toulouse aussi du bruit des avions et que on sera comptabilisé et normalement on aura une réponse à une plainte.
D'accord.
Voilà. Depuis quand ça existe
on le met depuis le mois d'avril de l'année dernière. On est en juin, donc ça fait un millier de plaintes, alors qu'avant c'était quelques dizaines de personnes. Voilà, et c'est vrai qu'en plus ça libère la parole, ça permet aux gens qui n'en peuvent plus de vraiment s'exprimer, parce qu'il y a une petite partie où on peut dire vraiment ce qu'on a, et on voit qu'il y a des gens qui vraiment n'en peuvent plus. Ils parlent même d'aéroports voyous et en plus c'est pas bien parce que ça nous met, on assimile la construction aéronautique à l'aéroport dans une espèce de sale migondi et on se met à détester ce qui fait vivre aussi la ville, c'est-à-dire on se met à détester même la construction aéronautique parce qu'elle utilise un outil qui est complètement perturbant, qui est dans la ville, qui aurait jamais dû être si près et qui l'est pourtant.
Est-ce qu'il commence à y avoir avoir des réactions un peu de l'aéroport ou
Ben déjà pendant 6 mois ils n'ont pas pu répondre aux plaintes parce que tout d'un coup ils en ont eu trop. Alors on nous envoyait un accusé de réception en disant bon, on peut pas répondre à vos plaintes, etc. Et là petit à petit maintenant l'aéroport reprend le dossier. Alors super, parce que on s'aperçoit que finalement nous sommes créateurs d'emplois. Ils ont été obligés d'embaucher une intérimaire pour répondre aux plaintes.
D'accord. Bon, alors, très bien. Continuez à vous plaindre si vous avez à vous plaindre, voilà. Amis auditrices et auditeurs de l'émission Ici Demain sur Esprit Occitanie. Et justement, le collectif, comment peut-on le contacter? C'est facile, on tape collectif contre les nuisances.
Oui, c'est CNAAT et on a un bon site. Voilà. Et on ne fait pas que se plaindre sur notre site. On vous fait part de tout ce qu'on réalise.
Il est bien ergonomique, votre site.
Il est ergonomique. Bon, alors ça va, voilà.
Alors il nous reste 2-3 minutes. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire encore, Chantal, aux auditrices et aux auditeurs d'Esprit Occitanie de l'émission Et si demain ?
Et si demain, qu'en Occitanie, le citoyen, le riverain de l'aéroport de Toulouse-Blagnac est aussi quelqu'un qui résiste. Et ce qui serait bien, c'est qu'il puisse récupérer le sommeil, c'est-à-dire qu'on lui interdise les vols la nuit et qu'on essaye de commencer à maîtriser un peu le trafic dans la journée. Voilà.
Et oui, c'est une bonne résolution. Allez. Sandrine, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter ou de redire aussi, notamment par rapport au week-end des 15 et 16 septembre 2018, où il va se passer plein de choses magiques, peut-être que nous allons renaître.
Eh bien, tu l'as très bien exprimé, si j'ai pu faire passer ce message-là. C'est vrai que c'est un séminaire très intéressant et surtout au regard de ce qu'en disent les participants, on a de très bons retours d'une découverte et puis aussi, bah, quelque part, ça nous rappelle notre chemin intérieur aussi. Voilà,
c'est... chemin que certains gens du pouvoir essaient de couper, de tronçonner pour justement qu'il n'y ait plus de connexion. Oui. Et c'est pour ça que peut-être dans les métros, on est pas tout le monde hein, en train de tapoter sur les portables.
Mais oui, c'est ça, on est vraiment dans une ère comme ça où tout est mis à l'extérieur. Alors que, on le sait, le chemin est intérieur. Et ça, quelle que soit la tradition qui en a parlé, a parlé de ça. Et là, évidemment, justement, on le voit aujourd'hui, la technologie fait tout le contraire. Justement, pourquoi ? Pour nous couper de notre connexion intérieure et aussi, surtout, pour nous couper de Dame Nature. Mmh. Et quand on est coupé de la nature, eh bien, on perd complètement sa propre nature.
Et on finit par perdre la vie aussi. Loïc ?
Eh bien, moi, je dirais aussi, dans la lignée de ce qu'a dit Chantal, que voilà, les Occitans et l'Occitanie n'oublient pas ses origines et puis retrouvent ses racines cathares, dans le respect de toutes les religions, et gardent toutes ces belles vertus de tolérance, de laïcité, de respect, d'union avec la nature, de cultiver, de terre.
Départ, etc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Portez-vous bien.
Merci.
Merci donc à Alain Delahaye pour cette réalisation technique. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi matin dans l'autre émission Traversée. Nous allons traverser aussi l'univers et nous allons parler notamment de géobiologie, mais pas que. Bye bye, à très vite.